Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je remercie le Seigneur de ce privilège qu'il m'a accordé ce matin d'être avec vous dans sa sainte présence pour adorer ensemble et bénir cette journée qui, pour toute la terre, représente une journée bénie, c'est-à-dire la journée où on fête la naissance de notre Sauveur. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Et nous avons aussi avec nous la famille, ils sont présentement à côté là. Je ne sais pas s'ils peuvent se mettre debout. Il y a ma femme et mes deux enfants et ma belle-mère, ils sont avec moi. Et comme aussi a dit le pasteur Fortuné, c'est une grâce de voir deux églises qui se réunissent. Et nous sommes sûrs et certains que le grand matin de l'éternité, l'Église en général, l'Église invisible sera là. Est-ce que vous croyez ça?
Amen.
Amen. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous. C'est en Matthieu, chapitre 1er. Nous lirons le verset 18 et au chapitre 2, le verset 1 à 12. Matthieu, chapitre 2, le verset 18. Je lis pour vous. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Chapitre 2, le verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem. Ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il s'assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devrait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas le moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquirent soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les renvoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi pour l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Amen. Baissez la tête. Céleste Père, nous te disons merci pour ton peuple ici réuni ce matin, pour ces deux églises qui se réunissent ensemble pour t'adorer, car tu es le Dieu de toute éternité. Merci pour chaque personne ici présente. Merci aussi pour ceux qui ne sont pas présents. Oh notre Dieu, soit qu'ils sont à leur maison, là où ils se trouvent. Va leur toucher d'une façon spéciale et toucher chaque personne ici présente. Et ainsi que nous autres, oh notre Dieu, qui se tiennent là devant ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous sur ce sujet disant: où cherchez-vous cet enfant qui est Jésus? Où cherchez-vous cet enfant? Le fait même que le récit de la conception divine de Jésus se résume à un seul verset prouve que l'histoire n'est pas inventée par les hommes. La naissance de Jésus est différente de toutes celles mentionnées dans les généalogies. Matthieu continue de donner des renseignements additionnels relatifs à la naissance virginale, mais le fait lui-même est décrit en une seule phrase, la première partie du verset 18 n'étant qu'une introduction à ces sujets. C'est pour cette raison, dans les 17 versets, se sont servis à dresser une généalogie de Jésus. Mais un seul verset a dressé sa généalogie divine. C'est-à-dire que pour sa divinité, il descend de Dieu par un acte miraculeux et unique du Saint-Esprit. En théologie, on appelle cet acte incarnation, qui vient du mot latin formé de deux mots, in et de kao. In, c'est-à-dire dans, et kao, qui signifie chair. En d'autres termes, qui signifie être dans la chair. Le mot incarnation ne se trouve pas dans la Bible, mais le concept est présent dans le Nouveau Testament. En Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit « La parole est devenue chair ». En d'autres termes, si on le traduit en latin, on dirait « Verbum caro factum est ». Elle a fait sa demeure parmi nous. Le but de l'incarnation, mes frères et sœurs, c'était de rendre visible le Dieu invisible en montrant sa nature et sa façon d'agir. Et c'est pour cette raison, en théologie, on appelle sa venue incarnation et sa mort expiation. Le mot naissance vient de la racine même grecque que le mot généalogie, si on regarde au verset premier. Ce qui indique que Matthieu présente ici un récit parallèle de l'ascendance de Jésus, cette fois-ci du côté de son père. C'était un petit rappel sur le verset 18 que je viens de lire pour vous, d'où sort la naissance de Jésus. Maintenant, on veut entrer dans le chapitre 2 qui explique l'histoire de cette naissance. Afin d'établir le droit de Jésus à la royauté véritable et finale d'Israël, Matthieu présente dans ce chapitre trois preuves additionnelles et légitimes. Trois preuves additionnelles, légitimes, uniques et absolues de Jésus au trône de David. Premièrement, sa généalogie. Deuxièmement, la haine de Hérode par rapport à ce bébé prouve que ce n'était pas son vrai trône. Il est assis au trône grâce au pouvoir qu'il a usurpé et non seulement il a usurpé ce pouvoir, il règne sur Juda uniquement du droit de force militaire. Car Hérode, c'était un Édomite qui sortait d'Édom et non un Juif. Donc un rival potentiel pour Hérode lui fait peur et sa haine comme étant un faux roi atteste même l'identité du vrai roi. Est-ce que vous y êtes avec moi, l'Église? Et la troisième preuve que Matthieu présente dans ce chapitre, la preuve de la royauté de Christ présentée par Matthieu sur quatre prophéties messianiques qui ont été accomplies. Parce que dans l'Ancien Testament, dans plus de 330 prophéties, on parlait concernant Jésus-Christ. Mais Matthieu, lui, il présente quatre durant l'enfance de Jésus, durant sa naissance et son enfance qui se sont accomplies. Et les autres durant sa vie. Donc, le fait que le livre de Matthieu, dans les deux premiers chapitres, présente les quatre prophéties qui se sont accomplies. Donc, on comprend que c'est la preuve que de la souveraineté de Dieu exige que l'histoire est complète et qu'il n'y a aucune fiabilité même de sa parole. C'est la preuve qui prouve que la parole de Dieu est fiable. Les quatre prophéties de Matthieu qui est liée au chapitre 2 et chapitre 1 représentent des sites géographiques étroitement liés à la naissance même de Jésus. Si on entend parler de Bethléem, là où il est né, on entend parler aussi de l'Égypte, parce que la Bible dit que mon fils sera appelé hors d'Égypte. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. Et si on continue encore, la Bible dit, ils ont parlé de Rama, là où il y a le bain de sang. Et à Rama, la prophétie qui est sortie de Rama, disant que j'ai entendu des cris à Rama. Et l'une des quatrièmes prophéties que Matthieu rapporte dans son récit, c'est à Nazareth, parce qu'il sera élevé à Nazareth. Le texte de chapitre 2 nous montre que de la façon que les mages sont venus, car ils cherchaient Jésus à Jérusalem. Jérusalem représente le centre de l'adoration du monde entier. Et c'est pour cette raison, les mages se sont rendus à Jérusalem pour adorer l'enfant Dieu. Mais la parole qui ont été réapportée par Matthieu en Matthieu chapitre 2, le verset 5 et 6, remonte à la prophétie de Michée 7 siècles plus tôt, où Michée était en train de prophétiser sur la chute de Jérusalem. Il voit la ville qui a été assiégée et qui essaie désespérément de rassembler ses troupes. Et c'est une prophétie qui fait référence soit au siège de Sennacherib en 701 avant Jésus-Christ, ou plus vraisemblablement à la chute de Jérusalem sur Nebuchadnezzar 586 avant Jésus-Christ. Mais en Michée chapitre 5, le verset 1er, nous assistons à un renversement de situation. Et cet renversement de situation, si nous lisons en Michée chapitre 5, les versets 1 à 4, cités par Matthieu au chapitre 2, les versets 5 et 6, ce qu'on voit, c'est que le passage de Michée, il y a un contraste frappant entre le roi Israël qui ont été vaincus par des ennemis et 6 nouveaux rois et 6 nouveaux chefs qui se sont levés. Et malgré les rois orgueilleux qui sont nés dans Jérusalem, ils ont échoué. Mais cependant, le Messie, lui qui est né à Bethléem, une ville insignifiante, cependant lui, il va triompher. Et non seulement il va triompher, il est né dans une étape très insignifiante. Donc le fait qu'il est né dans une étape très insignifiante, et presque cette étape, non seulement il était insignifiant, c'était même considéré, cette ville qui est la ville de Bethléem, on le considérait tellement petit. Donc et la prophétie même le dit, tu n'es pas le moindre des villes de Juda. Mais cependant, ce roi, lui, il va triompher. Donc, on comprend que l'abaissement de notre Sauveur Jésus-Christ, il s'est tellement abaissé qu'il est né dans une ville, la ville qui est la moins importante du lieu. Christ, non seulement est venu, donc pour nous les humbles, on comprend dans sa sagesse, il a fait des choses de façon humble pour nous inviter, nous autres, à exercer cette humilité. On se pose certaines questions. Pourquoi les mages et non les prêtres de Jérusalem? Pourquoi il est venu vers les bergers et non les scribes et les docteurs de la loi? Parce que les bergers dans la société de l'époque, c'était une classe méprisée. Non seulement les bergers étaient méprisés, les bergers étaient des paysans qui se situaient au plus bas de l'échelle sociale. On les jugeait malhonnêtes et lors des procès, on ne les considérait pas. D'après le traité de Sanhédrin, ils ne doivent pas être employés comme témoins. Le traité de Abodha Zora, donc, on ne le considérait point les bergers. Et non seulement on ne considérait pas les bergers, on ne devra pas les secourir. Et c'était de grands préjugés par rapport aux bergers. Et les bergers faisaient leur demeure dans les champs. Ils avaient des enclos, et non seulement les bergers, ils dormaient, c'est-à-dire à la belle lune. Donc les enclos qui servaient les bergers de bergerie étaient environnés de murs élevés. Et non seulement ça, ils étaient tantôt au ciel ouvert et tantôt à l'abri. Donc, on comprend que les bergers, à l'exception des Hébreux, c'est sûr que vous avez entendu parler des Hébreux, représentaient la plus basse classe d'hommes en Israël. Mais cependant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été les premiers à eu connaissance de la nouvelle de la naissance. Si on continue, on pouvait encore se poser cette question. Pourquoi Marie? Et non pas une représentante de la bourgeoisie religieuse. Pourquoi Marie? Le psalmiste David a dit quelque chose. Je suis pauvre. Je suis petit et ignorant. Mais le Seigneur pense à moi. Mes frères et sœurs, on peut être petit et insignifiant aux yeux des hommes. Mais toute la différence se fait lorsque Dieu fait sa demeure chez nous. La lumière éternelle vient briller à Bethléem. Marie, si on pouvait se poser certaines questions, où est Marie? Marie n'est pas dans l'unité obstétrique dans l'hôpital. Il n'est pas dans l'unité obstétrique dans l'hôpital à Jérusalem. Marie n'est pas dans l'unité obstétrique de l'hôpital à McGill. Marie n'est pas dans l'unité obstétrique de l'hôpital juif qui se trouve peut-être à Montréal. Marie n'est pas dans l'unité obstétrique qui se trouve dans un hôpital, soit à Washington ou je ne sais pas quoi. Et elle n'est pas aussi entre les mains d'une sage-femme. Mais Marie se trouve où ça? À Bethléem, dans un parc de bêtes. Ce qu'on aujourd'hui on pourrait appeler un parking, le parking de l'hôtel. Pourquoi j'ai dit le parking de l'hôtel? Parce que à chaque 100 km à l'époque de Jésus, il y avait une forme de caravansérail. Donc on rassemblait les animaux et à travers les animaux qu'on rassemblait, c'est là que lorsque un voyageur sortait de loin, il déposait leurs chevaux. Donc et puisque les voyageurs en général, ils déposaient leurs chevaux dans cette caravansérail, dans cet endroit, donc ça représentait pour eux autres le parking. Donc et c'est dans cette étape même que Marie, que Jésus est né, notre Sauveur est né, le roi de toute éternité. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, la sagesse incarnée et éternelle de Dieu est venue parmi nous. Bethléem, une petite ville située à 8 ou 9 kilomètres au sud de Jérusalem, a porté le nom de Ephrata dans l'Ancien Testament. Si on regarde en Genèse chapitre 35, le verset 16, en Ruth chapitre 4, le verset 11, et en Psaume 132, le verset 16, et en Michée 5, verset 2. Et cette petite ville qui a fini par appeler Bethléem après la conquête de Josué, donc le nom qui signifie, c'est-à-dire maison du pain. Donc on comprend que cette petite ville qui porte le nom de Bethléem, c'est là où Rachel a été enterrée. C'est là aussi Ruth a rencontré Boaz qui, plus devant, va donner naissance à leur petit-fils qui est David. Donc jusqu'à la naissance de Jésus, Bethléem, on l'appelait, comment? La ville de Judas. Et si on se rappelle bien la prophétie et les paroles prononcées par l'ange en Luc chapitre 2, le verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de Judas, il nous est né un sauveur. Souvent, on chante cette chanson sans réaliser les paroles. Le chanson 39 des Chants d'Espérance, il dit, « À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous coubons nos fronts. Jésus, nous coubons nos fronts. » Donc, parfois, on réunit pour fêter cette fête sans pour autant comprendre la réalité. Et ce matin, je vais vous expliquer en ces quelques minutes la réalité vraiment de ce moment souvent dont on réunit pour parler. Si on entre vraiment dans le verset 2 de Matthieu, dans le chapitre 2 de Matthieu, et si on se permet, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment le temps de parler d'Hérode comme étant un roi cruel et impitoyable et jaloux, qui est Hérode. Ce roi fut troublé parce qu'il a en face de lui le roi des rois. Donc Hérode, il craint non seulement pour le trône qui est réellement, qui n'est pas vraiment le sien, et Jérusalem sait que la crainte d'Hérode signifie rébellion. La crainte d'Hérode signifie bain de sang. La crainte d'Hérode signifie souffrance terrible. Donc la préoccupation du peuple, ce n'était pas le fait que la naissance vraiment du Sauveur, mais le peuple était troublé parce qu'il savait que le roi Hérode, automatiquement, en entendant ce nouvel, la crainte qui va débarquer chez Hérode va susciter ce qu'on appelle une bain de sang. Donc le peuple avait peur pour sa propre sécurité. Bien que la méchanceté de Hérode ne se érigeait pas vraiment vers Jérusalem, ce sera vers Bethléem, mais le fait que le peuple sait que la peur, la crainte que Hérode prouve, ça peut générer pas mal de crimes. Donc la Bible dit, Jérusalem aussi fut troublée. Mais le fait que les mages sortaient de Parthès, donc c'est-à-dire c'était pour Hérode une source de préoccupation particulière. Donc, et c'est pour cette raison, les mages comme étant le débarquement des mages à cette époque, donc qui sortaient d'Orient. C'était des mages sortaient d'Orient. Non seulement ils sortaient d'Orient, ils étaient peut-être probablement comme étant des voyageurs accompagnés pas mal de soldats. Et non seulement ils étaient accompagnés de soldats et de serviteurs, ce qui leur présence à Jérusalem a rendu encore beaucoup plus menaçant pour Hérode. C'est pour cette raison le texte dit, lorsque Hérode a entendu les nouvelles des mages qui se sont arrivés pour adorer le roi qui vient de naître, la Bible dit que ça a rendu un trouble chez Hérode. Et si on regarde dans le texte, on comprend que Hérode a fait appel non seulement au souverain sacrificateur, il a fait aussi appel aux scribes. En d'autres termes, il réunit les chefs religieux juifs qui sont non seulement des politiciens, mais aussi des théologiens. La question que Hérode se pose, donc, est liée directement. Hérode pose la question, où est le roi, où est le Messie? Donc, Hérode attribue ce roi au Messie parce que Hérode sait que même quand il n'est pas juif, mais il connaît que les attentes messianiques du peuple juif par rapport à un libérateur politique et militaire, non pas par rapport, c'est-à-dire à un sauveur spirituel. Et le fait que Matthieu cite les prophéties remontant à Michée au chapitre 2, c'est une façon d'élucider le concept de berger comme étant Jésus, comme étant non seulement il est le berger. Donc, contrairement à Hérode, Jésus sera non seulement un chef, c'est-à-dire un roi juif légitime, mais il sera le chef ultime et parfait d'Israël. C'est pour cette raison, ce qui intéresse Hérode en appelant les mages en secret, c'est le temps où l'étoile est apparue et non le sens ou la signification de l'étoile. Il suffit uniquement un signe qui indique la naissance, qui pourrait constituer pour Hérode une forme de menace et pour son poste. L'étoile est apparue en posant la question, Hérode cherchait à savoir depuis combien de temps que l'étoile brillait. C'est pour cette raison, au verset 9 de Matthieu chapitre 2, après avoir entendu, ils partirent et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Le verset 9 fournit une aide encore plus précise aux mages pour les conduire directement à l'enfant Jésus. Et l'étoile, en tant que, bien que l'étoile ne soit pas vraiment un corps physique et céleste, mais c'est la preuve évidente, le fait qu'il s'est arrêté directement sous la maison où Jésus vivait où l'enfant vivait avec sa famille, parce que il faut éviter l'erreur, parce que quand on arrive à certains endroits, on voit une crèche, c'est-à-dire on voit et les bergers, on voit les mages, mais non, le texte ne dit pas ça. Les mages sont venus après, parce que la distance qui situait entre Jérusalem et Bethléem, ça demande un petit peu plus de temps. Donc l'arrivée des mages n'a pas été dans l'étable. À noter, hein? L'arrivée des mages n'a pas été dans l'étable. Donc, le fait que ce corps, c'est-à-dire que l'étoile qu'ils ont vu apparaître et qui leur guidait, c'est la preuve évidente. Donc, cette étoile n'était pas vraiment une vraie étoile. Parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire par là. Si on regarde en Exode chapitre 40, les versets 34 à 38, si on regarde en Ézéchiel 10, les versets 4, cependant, peut-être la question qu'on se pose, si l'étoile, ce n'est pas une vraie étoile, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit de la gloire du Seigneur. La gloire, cette même gloire qui brillait autour des bergers lorsque les anges leur a annoncé la nouvelle de Jésus en Luc chapitre 2, le verset 9. Tout au long de l'Ancien Testament, on parle de la gloire du Seigneur qui manifeste comme étant une lumière. Donc, Dieu fait resplendir sa présence sous une forme ineffable de lumière. Et si on regarde en Exode chapitre 13, le verset 21, la Bible dit que le Seigneur guidait son peuple jour et nuit. Donc, par quoi? Par sa puissance. Donc,
donc par son éclat, par son apparition. Donc si on regarde en Exode 14, le verset 17, la Bible dit « La gloire de Dieu comme devant, comme autant au sommet de la montagne, donc il se manifestait au peuple. » Si on regarde en Exode 34, le verset 30, on dira que lorsque Moïse a reçu les 10 commandements de la loi, la Bible dit que le visage de Moïse rayonnait à un point que le peuple ne pouvait pas lui regarder. Si on regarde en Matthieu chapitre 17, le verset 2, donc on comprend que le visage de Jésus qui resplendit comme le soleil et son vêtement comme la lumière. Et si on continue encore pour prendre en Actes chapitre 9, le verset 3, lorsque l'apôtre a reçu cette lumière qui venant du ciel, plus loin, il va prononcer ses paroles en Actes 26, le verset 13, il dit « Son éclat surpassait celle du soleil ». Et si on continue encore, on va voir que en Apocalypse chapitre 1er, le verset 16, lorsque Jean a vu le visage de Christ comme le soleil qui brillait dans sa corps, qui brillait dans sa force, donc et si on note vraiment dans le texte hébreu et dans le texte grec, le texte hébreu qui traduit par kokab et aster en grec qui équivalent à une étoile, donc était également utilisé de façon métaphorique pour désigner quelque chose éclatant ou de très brillant. Donc et si on regarde en Nombre chapitre 24, le verset 17, où Jésus, donc le prophète, bien avant sa mort, il avait prophétisé tout en disant un as qui sort de Jacob. Donc on comprend que dans le dernier livre de la Bible, en Apocalypse 22, le verset 16, où la Bible identifie Jésus comme étant l'étoile brillante du matin, nous vous dirons ce matin, cette étoile qui est apparue au berger n'était pas d'autre que le Shekinah. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Est-ce qu'on l'a avec? Est-ce qu'on l'a avec? Donc, la gloire qui était apparue à Bethléem n'était pas d'autre que le Shekinah. Et donc, le Shekinah est apparu à Bethléem tout comme des siècles auparavant. Elle était apparue au-dessus du tabernacle dans le désert et même comme étant une colonne de nuée qui donnait la lumière à Israël. Donc, et si on regarde en Exode chapitre 14, le verset 20, la Bible dit que cette colonne de nuée et cette colonne de feu qui guidait le peuple Israël, il représentait dans le camp des Égyptiens ténèbres qui t'aiment d'où des bagailles que bon Dieu fait pour vous. Il n'est pas fait pour n'importe qui. Amen. Et puisque le parfait pour n'importe monde, on comprend donc sous les yeux des mages, donc pouvait voir cette grande lumière qui sortait, donc qui leur illuminait, qui leur montrait le chemin pour aller à Bethléem. Visiblement, aux yeux des mages, elle était simplement destinée aux mages. Donc c'est pour cette raison, l'étoile leur a réapparu pour les guider non seulement à Bethléem, mais également au lieu exact où se trouvait le petit enfant. Donc, le texte pour décrire l'extase des mages, la Bible dit qu'ils furent saisis d'une grande joie. Donc, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, il y a des bagailles que bon Dieu montre à vous-même, il n'y a pas montré à n'importe qui. Amen!
Et dans le texte, la Bible dit quand les mages ont arrivé à l'endroit où se trouvait le petit enfant, qu'est-ce qu'ils font? Quand les mages sont arrivés à l'endroit où se trouvait le petit enfant, il y a quelque chose de très intéressant qui est arrivé. Laissez-moi vous dire, en principe, selon la loi humaine, quand un roi arrive dans un endroit, qu'est-ce que le monde fait? Il se met d'eux. Quand un chef d'État arrive, si on vous dit ce matin, on a la présence peut-être du Premier ministre Trudeau, on va voir que toute l'Assemblée va se mettre debout pour saluer Trudeau. Si on vous dit qu'on a la présence peut-être du Premier ministre Couillard, on va voir que toute l'Assemblée va se mettre debout pour saluer M. Couillard. Parce que M. Couillard, il arrive dans l'Assemblée peut-être de façon curieuse, de façon pour exercer sa curiosité. Mais laissez-moi vous dire, le texte nous dit, lorsque les mages sont arrivés à Bethléem, ils voient le petit enfant, ils ne se sont pas mis debout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont posés. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Est-ce que l'église entendait samedi? Donc, en d'autres termes, devant le roi des rois, on ne se met pas debout, on se prosterne. Amen.
Et c'est pour cette raison que j'aime les paroles d'un serviteur qui disant, donc l'homme est grand que lorsqu'il est à genoux devant son créateur. Qui t'aime d'où lorsqu'on vient dans la présence de mon Dieu, ce n'est pas qu'on fait l'estomac ou besoin de descendre nous parce qu'on fasse le roi des. Et dans toute l'histoire de la Bible, ou plutôt dans toute l'histoire, on voit tout au long, donc les hommes, ils ont les mêmes réactions. Donc, comme Hérode était hostile à Jésus, comme les principaux sacrificateurs et les scribes, ils étaient indifférents. Il y en a d'autres comme exemple des mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés pour adorer. C'est pour cette raison, ce matin, je vous ai posé la question, où cherchez-vous Jésus? Donc, il y a plus de 2000 ans de ça, là. Peut-être, il y a plus de 2000 ans de ça, on a, il était à Bethléem. Donc, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de place dans cette société, dans cette dite société. Il n'y a pas encore de place pour Christ. Nous vivons dans une société où pas mal de gouvernements dans le temps passé ont essayé à maintes reprises d'enlever cette fête qui est la fête de Noël. Où cherchez-vous les Christ aujourd'hui, ce matin? La Bible dit, à l'arrivée des bergers pour adorer dans l'étable, à quel signe que les bergers pouvaient reconnaître le Messie? Il n'était pas dans un palais. Il n'était pas dans un hôtel. Il n'était pas aussi à Sainte-Justine. On va voir dans l'unité, et c'est-à-dire dans l'unité des enfants, là où se trouve le Christ. Mais la Bible dit, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Où cherchez-vous le Christ? L'Église, où cherchez-vous le Christ? C'est la question que j'ai posée. Vous le cherchez dans les cinémas? Vous le cherchez dans les bals? Vous le cherchez dans le monde? La jeunesse, vous cherchez Jésus à Hollywood? Il se trouve où ça? Il se trouve à Las Vegas? Où se trouve Jésus? Ou dans les grandes églises, ou soi-disant les grandes églises, où tout le monde y va pour se défouler. Aujourd'hui, il y a une tendance où les églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte de défouler les jeunes parce qu'ils cherchent à leur défouler. Ces églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prêchent pas la parole parce que tout le monde cherche un endroit pour se défouler. Où cherchez-vous le Christ? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tous les endroits où le nom de Jésus cite, il est là. Ce n'est pas tout côté nom Jésus cite, il est là. Aujourd'hui, où cherchez-vous le Christ? Il y a des églises qui font pas mal de miracles, mais ce sont des faussetés. Il y a des églises qui donnent pas mal de musique. Il y a des églises qui offrent même du plaisir, etc. Où cherchez-vous le Christ? Au pied de nappe de Noël? Quelqu'un disait, celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera pas au pied d'une arbre. Où cherchez-vous le Christ? Est-ce dans l'alcool? Est-ce dans la drogue? Ou dans l'Auto-Québec? Ah, mon cher, même là. Donc, m'a suivi, on va dès que l'auto-million jusqu'à 60 000. 60 millions, ça a belle, hein? Où cherchez-vous le Christ? Laissez-moi vous dire, on n'a pas besoin des lumières au pied des arbres, mais on a besoin de la lumière de Christ dans nous. C'est pour cette raison, la prophétie d'Ésaïe, en Ésaïe chapitre 8 et chapitre 9, il dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une merveilleuse lumière. Et pour ce qui est, donc parce que je connais les tendances de ce temps, parce que moi, je vis dans la communauté aussi. C'est toute une vague où pas mal de monde cherche, c'est-à-dire ceux qui frappent à l'œil. Moi, quand je dis dans mon église, j'utilise souvent ce mot pour dire que tout le monde cherche ce qui frappe à l'œil, le tape à l'œil. Tout le monde cherche ce qu'on appelle les new and improved, nouveau et amélioré. En Jérémie, chapitre 6, le verset 16, le prophète Jérémie dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, en d'autres termes, il ne dit pas de chercher de nouveaux sentiers, il ne dit pas de chercher une nouvelle église, il ne dit pas de chercher des endroits comme ça, mais il a dit que de chercher les anciens sentiers, en d'autres termes, les sentiers qui ont conduit nos pères, qui ont conduit pas mal de générations à la gloire, nous y conduirons aussi à la gloire.
Les mages, lorsqu'ils se sont arrivés en lieu, sur le lieu où était Jésus, ils ont présenté des signes indiquant non seulement ils ont donné de l'or pour sa royauté, de l'encens pour sa divinité, de la mine pour son humanité. Les présents représentaient pour les mages, c'est ce qu'on appelle une expression de leur adoration. Le don qui découle d'un cœur reconnaissant. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand on vient pour adorer Jésus, on ne retourne pas de la même façon qu'on était. C'est deux amen, j'ai entendu. C'est trois amen, j'ai entendu.
Amen.
C'est quatre amen.
Amen.
Bon, je vous lis en créole. L'homme vient adorer Jésus, pas qu'à tourner, j'en t'ai venu. Donc, les mages, la Bible dit que Dieu leur a donné la mission de retourner par un autre chemin. Donc, la sanctification, c'est ça ce qu'on appelle contempler. Donc, il y a un proverbe qui dit, l'homme est le produit de son milieu. Si vous adorez le monde, vous devenez mondain. Si vous adorez l'argent, vous devenez matérialiste. Et on pourrait continuer. Mais si vous adorez le Christ, on devient comment? Comme le? Si on adore le Christ, on devient comment? Comme le? Comme le Christ. Vous ressemblez à ce que vous adorez, mes frères et sœurs. C'est pour cette raison que j'ai posé la question, où cherchez-vous le Christ? Il y a un texte qui dit en 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, « Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce que vous adorez, vous le représentez. Vous représentez ça qu'on adore. » C'est ça, Fendou, tout à l'heure, il y a un petit proverbe qui dit « L'homme est le produit de son milieu. » Et c'est pour cette raison, lorsque Paul parle en 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, il dit « Nous tous dont le visage découvert, reflétant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc les adorateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent comme l'objet de leur adoration. Soit au péché, soit à leur vertu. Donc, quand vous venez à la maison du Seigneur, vous apportez quelque chose, ce qui représente pour Dieu, c'est d'abord votre cœur. Et puis après, sortira la reconnaissance. Et laissez-moi vous dire, ce matin, j'ai posé la question, où cherchez-vous le Christ? Est-ce que vous êtes venu adorer Jésus et contempler Jésus? Ou plutôt, vous venez simplement par simple curiosité pour regarder les autres. Où cherchez-vous le Christ ce matin? Laissez-moi vous dire, maintenant là, je vais avancer pour terminer. Mais je dois toucher directement la question que j'ai posée. Demain lundi, c'est le Boxing Day. Il y aura pas mal de mouvements, que ce soit à n'importe quelle ville, que ce soit à Laval, ou à Montréal, ou à n'importe quel endroit. Mais le Boxing Day, c'est comme il n'y a pas longtemps, il y avait le Black Friday. Le Black Friday où le monde faisait pas mal de showbiz, c'est-à-dire il y a une forme de va-et-vient. Ce sont des affaires qui durent pas long, quelques instants. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui n'était pas ce matin ici à ce temple pour adorer le Seigneur, ils seront là demain. Parce qu'ils vont chercher ce qu'on donne comme spécial, ce qu'on pourrait descendre le prix.
C'est comme là, le mouvement de ce temps. Si on regarde le mouvement de ce temps, on pourrait dire qu'il n'y a pas si longtemps, ils fêtaient deux jours, c'est-à-dire les deux jours d'Halloween, où à chaque maison qu'on passe à l'intérieur, ou plutôt à l'extérieur de chaque maison, on voyait non seulement donc, où est tête moi, où est toute qualité bagaille, qui pour identifier qui ça mon yon observia, qui ça que yon adoré comme objet, qui ça que yon baille valeur. Donc, et ce même style d'Halloween qu'il soit que les hommes vénèrent ou soit que les hommes élèvent. Donc, Masta qui t'aime d'où, le masque ne dure pas longtemps. Masta durait deux jours après Masta, l'a tombé. Vrai visage d'apparaître. Maintenant, on sort de l'Halloween. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, il n'y a pas quelques minutes de ça, automatiquement, l'Halloween termine. On voit que tout le monde s'empresse d'enlever devant chez eux. Donc, toutes les formes de chimagrie qu'ils avaient mis. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les arbres. Ils mettent des arbres. Ils mettent de la lumière dans les arbres pour identifier un personnage en rouge et blanc avec une gros barbu. Et donc, non seulement avec une gros barbu, ils parlent de lutter. Ils réduisent la Noël à ce niveau qui t'aime d'où? Il n'y a pas besoin d'un zabiot, mais il a besoin d'un docker.
C'est ça. Et laissez-moi vous dire, à partir de demain et tout au cours de la semaine, on va voir. Maintenant, ils s'empressent d'enlever les lumières qui se trouvaient dans les arbres. Ils vont le remplacer par quoi? Ah, tout à l'heure, on va voir la Saint-Valentin. Si on était en Haïti, on pourrait dire qu'après les Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il y avait à voir les deux jours de, ou les trois jours de Mardi Gras? Parce que les masses vont tomber. Mais après les deux jours de Mardi Gras, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc si on continue au mois d'avril, on va parler, qu'est-ce qu'on va parler? On va réduire l'expiation de Jésus, donc la mort de Jésus qui nous a donné cette liberté. Ils vont le réduire en ce qu'on appelle les œufs de Pâques. Et laissez-moi vous dire, c'est à ce niveau qu'on réduit notre christianisme. C'est pour cette raison que j'ai posé la question, où cherchez-vous le Christ? Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où l'Église cherche à être attrayante pour le monde. C'est pour cette raison, et peut-être on va voir ces messieurs qui sont là, les pasteurs, pasteur Sétilaire et pasteur Fortuné, ils sont des anciens. Ils gardent leur originalité, en d'autres termes, ils gardent leur respect, ils gardent leur système. Je connais pas leur vie, mais quand on les regarde, on voit que c'est des simples serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, on arrive dans des églises où on voit le pasteur avec une costume de 10 pièces et un soulier de multicolore parce qu'il veut être à la mode. L'évangile, c'est la simplicité. Le maître de l'évangile, Jésus-Christ même, c'est la simplicité.
Où cherchez-vous le Christ?
Pourquoi on n'aime pas bien amen, non? Pas bien amen, non, passe. Pas bien amen.
Où cherchez-vous le Christ? Parce que, aujourd'hui, les hommes, alors, excuse-moi l'expression, soi-disant des hommes de Dieu cherchent beaucoup plus à ressembler au monde. Parce que Paul dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, en d'autres termes, quand on arrive dans certaines églises, on voit des jeunes, c'est ça ce qu'ils cherchent, cette liberté, où jeunes garçons ont campé avec 5-6 ans dans oreilles, la dirigée du haut de la chair. Qu'est-ce que vous faites? À quoi que vous adorez? Est-ce que c'est Jésus à pas adorer? C'est pour cette raison que j'ai posé la question, où cherchez-vous le Christ? Maintenant, femme moderne, vous voulez être moderne? Vas-y comme artiste. Mais laisse l'église de Jésus-Christ. Parce que là où l'église de Jésus-Christ agit, c'est la transformation.
Garçon qui est comme un zanolandel et puis le camp est là pour diriger. Bah, ça veut pas dire qu'on voit dans le temps le côté où mettez un bête. Oui, excuse-moi, sans vouloir avec ces personnes, mais je veux retourner à l'ancien évangile. Là, nous retournons dans la Bible. Où cherchez-vous le Christ? Où cherchez-vous le? Est-ce au pied d'un arbre
ou dans la parole. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. C'est la parole faite chair. C'est pour cette raison, Charles Spurgeon, le grand sage Spurgeon, le prédicateur britannique, il a dit ces mots juste pour remonter à... Parce que peut-être, je me pose la question, est-ce que Charles Spurgeon savait ce qui allait se passer dans cette génération? Il dit, on a deux choix. Soit on diversifie les boucs ou on nourrit les brebis. Et c'est ce qu'on fait là. On veut vous nourrir de la parole. On veut que l'église de Jésus-Christ soit équipée. Parce que lorsque Pierre prononce ces paroles, il dit « Sanctifiez dans vos corps Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de votre espérance. » Lorsqu'on a qui est-ce qu'on croit, lorsqu'on a qui est-ce qu'on marche, ce n'est pas grimace qui fait peur, parce que qu'on a qui est-ce qu'on croit, et qu'on te croit, qu'on aller. Amen. Où cherchez-vous le Christ? Nous ne pouvons pas faire, mais nous tous qui là, nous tous ces frères et sœurs, nous ne pas là. Mais il faut nous joindre devant. Et je vais terminer. J'aime cette parole. Je l'ai dit récemment à mon église. La foi chrétienne n'est pas un complément ou un ajout à notre vie. Est-ce qu'on entend samedi? J'ai dit, la foi chrétienne n'est pas un complément ou un ajout. La foi chrétienne, elle doit être la force motrice qui détermine notre existence. Bon, m'explique-moi ça bien. Bon, m'explique-moi lien créole. Moi, je dis, foi chrétienne, non, c'est pas juste un bagage commun qu'on vient ajouter à lui-même. C'est pas juste un petit ajout que, bon, un bon manqué, c'est comme vous avez dit, ou même, ou bail Christ. Ou en d'autres termes, ou bien la foi et puis toute bagaille. La foi chrétienne, c'est moteur existence. Donc, c'est de ça qu'on vit, c'est de ça qu'on fonctionne. Et ça fait la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et dans Hébreux, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et dans 1 Jean 5, le verset 4, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, on a besoin d'un retour aux vrais évangiles. Et c'est pour cette raison que j'ai posé la question, où cherchez-vous le Christ? Est-ce dans le glamour de ce monde? Parfois, on fête la Noël, bon, c'est juste une fête. On réduit la Noël à un mouvement qui passe aussi rapide et puis qui termine. Mais pendant ce temps, on met à côté notre Sauveur. Raison qui mène là, c'est pour adorer Jésus. Et ça fait me dire que lorsqu'on vient avec Jésus, ou pas qu'à tourner Jean côté vigne. Les mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti, comment? Ils n'ont pas retourné côté où ils sont. Ils ont passé par un autre chemin parce qu'ils ont rencontré le Sauveur. Et lorsqu'ils ont rencontré le Sauveur, ils se sont baissés pour adorer ce Sauveur. Ce matin, comment j'ai posé la question? Et deux mondes m'entendent que dit ça, nous pas chier. Et toi, mon mère, t'as dit ça, nous fâchés. Même t'as arrivé toute l'église en dire. Qui côté n'a pas cherché Jésus? Parce que dans votre quotidien, vous avez besoin de cette foi pour manifester. Là où vous travaillez, là où vous faites, là où à l'université, là où les professeurs soit pensent qu'il n'existe pas de Dieu, mais vous, vous êtes la preuve que Dieu existe. Parce que en se reposant sur les paroles de Billy Graham qui disait « Nous sommes la Bible que le monde lit, le credo que le monde voit et le sermon que le monde entend. » En d'autres termes, notre vie chrétienne doit refléter ce qu'on est. Où cherchez-vous le Christ? C'est la question. C'est la question que à la fin de cette année que vous allez vous poser chez vous et dans cette nouvelle année qui va commencer dans peut-être quelques jours encore, ou plutôt quelques heures encore, on veut déraper cette nouvelle année avec la présence de Dieu tout en débordant dans notre être. Il faut que l'Église soit capable d'impacter le monde. À une dimension que, dans le livre des Actes, la Bible dit que Lorsque monsieur ouais disciple a bini, lorsque moun ouais, lorsque disciple débarque l'on ville, lorsque disciple débarque l'on endroit, lorsque disciple débarque l'on contrée, la seule question qui est venue à l'esprit de tout le monde, ils disent que ces hommes qui ont bouleversé le monde. Laissez-moi vous dire que ne serait-ce pas l'intervention de Dieu, ils t'ont annulé, ils t'ont cadré, ils t'ont tassé de côté. C'est ce qu'on appelle la Noël. Donc nous avons besoin d'une église vivante qui soit capable de rester debout devant le monde pour leur dire non, le Sauveur est tout pour nous. C'est à cause d'une peuple, c'est pas à cause peut-être de certains personnages qu'on voulait retirer à côté de la Noël. Donc derrière Jésus est le centre de l'histoire. On dit que avant et après Jésus.
Où cherchez-vous le Christ? Que Dieu vous bénisse.